Histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Tome 1er. Chaque année, lorsque je descends de ma chaire, que je vois la foule écouler, encore une génération que je ne reverrai plus, ma pensée retourne en moi. L'été s'avance. La ville est moins peuplée, la rue moins bruyante, le pavé plus sonore autour de mon panthéon. Ces grandes dalles blanches et noires retentissent sous mes pieds. Je rentre en moi. J'interroge sur mon enseignement, sur mon histoire, son tout-puissant interprète l'esprit de la Révolution. Lui, il sait, et les autres n'ont pas su. Il contient leurs secrets à tous les temps antérieurs. En lui seulement, la France eut conscience d'elle-même. Dans tout moment de défaillance où nous semblons nous oublier, c'est là que nous devons nous chercher et nous ressaisir. Là se garde toujours pour nous le profond mystère de vie, l'inextinguible étincelle. La Révolution est en nous, dans nos âmes. Au dehors, elle n'a point de monument. Vivant esprit de la France, où te saisirais-je si ce n'est en moi? Les pouvoirs qui se sont succédés, ennemis dans tout le reste, ont semblé d'accord sur un point. Relever, réveiller les âges lointains et morts. Toi, ils auraient voulu t'enfouir. Et pourquoi? Toi seul, tu vis. Tu vis, je le sens. Chaque fois qu'à cette époque de l'année, mon enseignement me laisse, et le travail pèse, et la saison s'alourdit. Alors, je vais au Champ de Mars, je m'assieds sur l'herbe séchée, je respire le grand souffle qui court sur la plaine aride. Le Champ de Mars, voilà le seul monument qu'a laissé la Révolution. L'Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l'Arc de Triomphe. La royauté a son Louvre, ses Invalides. La féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame. Il n'est pas jusqu'aux Romains qui naît les termes de César. Et la Révolution a pour monument le vide. Ce monument, c'est ce sable, aussi plane que l'Arabie. Un tumulus à droite et un tumulus à gauche, comme ceux que la foule est levée, obscur et douteux témoin de la mémoire des héros. Le héros, n'est-ce pas celui qui fonda le pont d'Iéna? Non, il y a ici quelqu'un de plus grand que celui-là, de plus puissant, de plus vivant, qui remplit cette immensité. Quel dieu? On n'en sait rien. Ici réside un dieu. Oui, quoiqu'une génération oublieuse ose prendre ce lieu pour théâtre de ses vains amusements, imité de l'étranger, quoique le cheval anglais batte insolemment la plaine, un grand souffle la parcourt que vous ne sentez nulle part, une âme, un tout-puissant esprit. Et si cette plaine est aride, et si cette herbe est séchée, elle reverdira un jour. Car dans cette terre est mêlée profondément la sueur féconde de ceux qui, dans un jour sacré, ont soulevé ces collines. Le jour où, réveillés au canon de la Bastille, vinrent, du nord et du midi, s'embrasser la France et la France. Le jour où 3 millions d'hommes, levés comme un homme armé, décrétèrent la paix éternelle. Ah, pauvre Révolution, si confiante à ton premier jour, tu avais convié le monde à l'amour et à la paix. Ô mes ennemis, disais-tu, il n'y a plus d'ennemis. Tu tendis la main à tous, leur offrit ta coupe à boire à la paix des nations, mais ils ne l'ont pas voulu. Et lors même qu'ils sont venus pour la frapper par surprise, l'épée que la France a tirée, ce fut l'épée de la paix. C'est pour délivrer les peuples, pour leur donner la vraie paix, la liberté qu'elle frappa les tyrans. Dante assigne pour fondateur aux portes de l'enfer l'amour éternel. Ainsi, sur son drapeau de guerre, la Révolution écrivit « la paix ». Ses héros, ses invincibles, furent entre tous les pacifiques. Les Hoche, les Marceau, les Dessé et les Kléber sont pleurés, comme les hommes de la paix, des amis et des ennemis. Pleurés du Nil et du Rhin, pleurés de la guerre elle-même, de l'inflexible Vendée. La France s'était fiée si bien à la puissance de l'idée qu'elle fit ce qu'elle pouvait pour ne pas faire de conquête. Tout peuple, ayant même besoin, la liberté poursuivant le même droit, d'où pouvait naître la guerre? La Révolution, qui n'était dans son principe que le triomphe du droit, la résurrection de la justice, la réaction tardive de l'idée contre la force brutale, pouvait-elle sans provocation employer la violence? Ce caractère profondément pacifique, bienveillant, aimant de la Révolution, semble un paradoxe aujourd'hui. Tant on ignore ses origines, tant sa nature est méconnue, tant la tradition au bout d'un temps si court se trouve déjà obscurcie. Les efforts violents, terribles qu'elle fut obligée de faire pour ne pas périr contre le monde conjuré, une génération aveugle, oublieuse, les a pris pour la Révolution elle-même. Et de cette confusion, il résulta un mal grave, profond, très difficile à guérir chez ce peuple, l'adoration de la force. La force de résistance, l'effort désespéré pour défendre l'unité. 93. Ils frémissent et ils se jettent à genoux. La force d'attaque et de conquête. 1800. Les Alpes abaissées puis la foudre d'Austerlitz. Ils se prosternent, ils adorent. Dirais-je qu'en 1815, trop facile à louer la force, à prendre le succès comme le jugement de Dieu, ils ont eu au fond de leur cœur, sous leur douleur et leur colère, un misérable argument pour amnistier l'ennemi. Beaucoup se sont dit tout bas, il est fort, donc il est juste. Ainsi deux mots, les plus graves qui puissent affliger un peuple, ont frappé la France à la fois. Sa propre tradition lui est échappée, elle s'est oubliée elle-même. Et chaque fois, plus incertaine, plus pâle et plus fugitive, a flotté devant ses yeux la douteuse image du droit. Ne cherchez pas pourquoi ce peuple va baissant, s'affaiblissant. N'expliquez pas sa décadence par des causes extérieures. Qu'il n'accuse ni le ciel ni la terre, le mal est en lui. Qu'une tyrannie insidieuse ait eu prise pour le corrompre, c'est qu'il était corruptible. Elle l'a trouvé faible, désarmé, tout prêt pour la tentation. Il avait perdu de vue l'idée qui seule le soutenait. Il allait, misérable aveugle, à tâtons dans la voie fangeuse. Il ne voyait plus son étoile. Quelle ? L'astre de la victoire ? Non, le soleil de la justice et de la révolution. Que les puissances de ténèbres aient travaillé par toute la terre pour éteindre la lumière de la France, opérer l'éclipse du droit, cela était naturel. Mais jamais, avec tous leurs efforts, elles n'y auraient réussi. L'étrange, c'est que les amis de la lumière ont aidé ses ennemis à la voiler et l'obscurcir. Le Parti de la Liberté a présenté, au dernier temps, deux graves et tristes symptômes d'un mal intérieur, qu'il permet à un ami, à un solitaire, de lui dire toute sa pensée. Une main perfide, odieuse, la main de la mort, s'est offerte à lui, avancée vers lui, et il n'a point retiré la sienne. Il a cru que les ennemis de la liberté religieuse pouvaient devenir les amis de la liberté politique. Vaine distinction scolastique qui lui ont troublé la vue. Liberté, c'est liberté. Et pour plaire à l'ennemi, il a renié l'ami. Que dis-je ? Son propre père, le grand XVIIIe siècle. Il a oublié que ce siècle a fondé la liberté sur l'affranchissement de l'esprit. Jusque-là lié par la chair, lié par le principe matériel de la double incarnation théologique et politique, sacerdotale et royale. Ce siècle, celui de l'esprit, abolit les dieux de chair dans l'État, dans la religion, en sorte qu'il n'y eut plus d'idole et qu'il n'y eut de Dieu que Dieu. Et pourquoi les amis sincères de la liberté ont-ils pactisé avec le parti de la tyrannie religieuse? C'est parce qu'ils s'étaient réduits à une faible minorité. Ils ont été étonnés de leur petit nombre et n'ont osé repousser les avances d'un grand parti qui semblait s'offrir à eux. Nos pères n'ont point agi ainsi. Ils ne se sont jamais comptés. Quand Voltaire, enfant, entra sous Louis XIV même dans la périlleuse carrière de la lutte religieuse, il paraissait être seul. Seul était Rousseau au milieu du siècle, quand il osa, dans la dispute des chrétiens et des philosophes, poser le dogme nouveau. Il était seul. Le lendemain, le monde entier fut à lui. Si les amis de la liberté voient leur nombre décroître, c'est qu'ils l'ont voulu eux-mêmes. Plusieurs se sont fait un système d'épuration progressive, de minutieuse orthodoxie, qui vise à faire de la partie une secte, une petite église. On rejette ceci, puis cela. On abonde en restrictions, distinctions, exclusions. On découvre chaque jour quelques nouvelles hérésies. De grâce, disputons moins sur la lumière du Tabor comme faisait Byzance assiégée. Mahomet II est aux portes. De même que, les sectes chrétiennes se multipliant, il y eut des jansénistes, des molinistes, etc. Et il n'y eut plus de chrétiens. Les sectes de la Révolution annulent la Révolution. On se refait constituants, girondins, montagnards, plus de révolutionnaires. On fait peu de cas de Voltaire. On rejette Mirabeau, on exclut Madame Roland, dont on même n'est pas orthodoxe. Quoi ? Il ne restera donc que Robespierre et Saint-Just ? Sans méconnaître ce qu'il y eut dans ces hommes, sans vouloir les juger encore, qu'il suffise ici d'un mot. Si la Révolution exclut, condamne leurs prédécesseurs, elle exclut précisément ceux qui lui donnèrent prise sur le genre humain. Ceux qui firent un moment le monde entier révolutionnaire. Si elle déclare au monde qu'elle s'en tient à ceci, si elle ne lui montre sur son autel que l'image de ses deux apôtres, la conversion sera lente. La propagande française n'est pas fort à craindre. Les gouvernements absolus peuvent parfaitement dormir. Fraternité, fraternité, ce n'est pas assez de redire le mot. Il faut, pour que le monde nous vienne comme il fit d'abord, qu'il nous voie un cœur fraternel. C'est la fraternité de l'amour qui le gagnera, et non celle de la guillotine. Fraternité, hé, qui n'a dit ce mot depuis la création? Croyez-vous qu'il ait commencé par Robespierre ou Mably? Déjà, la cité antique parle de fraternité. Mais elle ne parle qu'aux citoyens, aux hommes. L'esclave est une chose. Ici, la fraternité est exclusive, inhumaine. Quand les esclaves ou affranchis gouvernent l'Empire, quand ils s'appellent Terence, Horace, Phèdre, Épictète, il est difficile de ne pas étendre la fraternité à l'esclave. « Soyez frères, » dit le christianisme. « Mais pour être frère, il faut être. Or, l'homme n'est pas encore. Le droit et la liberté constituent seuls la vie de l'homme. Un dogme qui ne le donne pas n'est qu'une fraternité spéculative entre zéro et zéro. « La fraternité ou la mort, » a dit plus tard la Terreur. « Encore fraternité d'esclaves. Pourquoi y joindre par une dérision atroce le saint nom de la liberté ?» Des frères qui se fuient, qui pâlissent à se regarder en face, qui avancent, qui retirent, une main morte et glacée. Spectacle odieux, choquant. Si quelque chose doit être libre, c'est le sentiment fraternel. La liberté seule, fondée au dernier siècle, a rendu possible la fraternité. La philosophie trouva l'homme sans droit, c'est-à-dire nul encore, engagé dans un système religieux et politique dont l'arbitraire était le fond. Et elle dit « Créons l'homme, qu'il soit par la liberté. » Créé à peine, il aima. C'est par la liberté encore que notre temps, réveillé, rappelé à ses vraies traditions, pourra à son tour commencer son œuvre. Il n'écrira pas dans la loi « Sois mon frère ou meurs », mais par une culture habile des meilleurs sentiments de l'âme humaine, il fera que tous, sans le dire, veuillent être frères en effet. L'État sera ce qu'il doit être, une initiation fraternelle, une éducation, un constant échange des lumières spontanées d'inspiration et de foi qui sont dans la foule, et des lumières réfléchies de science et de méditation qui se trouvent chez les penseurs. Voilà l'œuvre de ce siècle. Puisse-t-il donc enfin s'y mettre sérieusement? Il serait triste vraiment qu'au lieu de rien faire lui-même, il passât le temps à blâmer le plus laborieux des siècles, celui auquel il doit tout. Nos pères, il faut le répéter, firent ce qu'il fallait faire alors, commencèrent précisément comme il fallait commencer. Ils trouvèrent l'arbitraire dans le ciel et sur la terre, et ils commencèrent le droit. Ils trouvèrent l'individu désarmé, nu, sans garantie, confondu, perdu dans une apparente unité qui n'était qu'une mort commune. Et pour qu'il n'eût aucun recours, même au suprême tribunal, le dogme religieux l'enveloppait en même temps que la solidarité d'une faute qu'il n'avait pas faite. Ce dogme, éminemment charnel, supposait que, du père au fils, l'injustice passe avec le sang. Il fallait avant toute chose revendiquer le droit de l'homme si cruellement méconnu. Rétablir cette vérité trop vraie et pourtant obscurcie. L'homme a droit, il est quelque chose. On ne peut le nier, l'annuler même au nom de Dieu. Il répond, mais pour ses actions, pour ce qu'il fait de mal ou de bien. Ainsi, disparaissait du monde la fausse solidarité. La juste transmission du bien, perpétuée dans la noblesse. La juste transmission du mal, par le péché originel. Ou la flétrissure civile des descendants du coupable, la révolution les efface. Est-ce là, homme de ce temps, ce que vous taxez d'individualisme, ce que vous appelez un droit égoïste? Mais songez donc que, sur ce droit de l'individu qui seul l'a constitué, l'homme n'était pas, n'agissait pas, donc ne pouvait fraterniser. Il fallait bien abolir la fraternité de la mort pour fonder celle de la vie. Ne parlez pas d'égoïsme. L'histoire répondrait ici tout autant que la logique. C'est au premier moment de la Révolution, au moment où elle proclame le droit de l'individu, c'est alors que l'âme de la France, loin de se resserrer, s'étend, embrasse le monde entier d'une pensée sympathique, alors qu'elle offre à tous la paix, veut mettre en commun entre tous son trésor, la liberté. Il semble que le moment de la naissance, l'entrée d'une vie douteuse encore, est pour tout être celui d'un légitime égoïsme. Le nouveau-né, nous le voyons, veut durer, vivre avant tout. Ici, il n'en fut pas de même. La jeune liberté française, lorsqu'elle ouvrit les yeux au jour, lorsqu'elle dit le premier mot qui ravit toute créature nouvelle, « Je suis », eh bien, alors même sa pensée ne fut point limitée au moi. Elle ne s'enferma pas dans une joie personnelle. Elle étendit au genre humain sa vie et son espérance. Le premier mouvement qu'elle fit dans son berceau, ce fut d'ouvrir des bras fraternels. « Je suis, » dit-elle à tous les peuples, « ô mes frères, vous serez aussi. » Ce fut sa glorieuse erreur, sa faiblesse touchante et sublime. La Révolution, il faut l'avouer, commença par aimer tout. Elle alla jusqu'à aimer son ennemi, l'Angleterre. Elle aima, s'obstina longtemps à sauver la royauté, la clé de voûte des abus qu'elle venait démolir. Elle voulait sauver l'Église. Elle tâchait de rester chrétienne, s'aveuglant volontairement sur la contradiction du vieux principe, la grâce arbitraire, et du nouveau, la justice. Cette sympathie universelle qui, d'abord, lui fit adopter, mêlée indiscrètement tant d'éléments contradictoires, la menait à la conséquence, à vouloir et ne pas vouloir, à faire, défaire en même temps. C'est l'étrange résultat de nos premières assemblées. Le monde a souri sur cette œuvre, qui n'oublie pas cependant que ce qu'elle eut de discordant, elle le dut en partie à la sympathie trop facile, à la bienveillance indistincte qui fit le premier caractère de notre révolution. Génie profondément humain, j'aime à le suivre, à l'observer dans ces admirables fêtes où tout un peuple, à la fois acteur et témoin, donnait, recevait l'élan de l'enthousiasme moral, où chaque cœur grandissait de toute la grandeur de la France, d'une patrie qui, pour son droit, proclamait le droit de l'humanité. À la fête du 14 juillet 1792, parmi les saintes images de la liberté, de la loi, dans la procession civique où figuraient avec les magistrats les représentants, les veuves et les orphelins des morts de la Bastille, on voyait divers emblèmes, ceux des métiers utiles aux hommes, des instruments d'agriculture, des charrues, des gerbes, des branches chargées de fruits. Ceux qui les portaient étaient couronnés d'épis et de pampres verts. Mais on en voyait aussi d'autres en deuil, couronnés de cyprès. Ils portaient une table couverte d'un crêpe, et sous le crêpe, un glaive voilé, celui de la loi. Touchante image. La justice qui montrait son glaive en deuil ne se distinguait plus de l'humanité elle-même. Un an après, le 10 août 1793, une fête, tout autre, fut célébrée, celle-ci héroïque et sombre. Mais la loi s'était mutilée, le pouvoir législatif avait été violé, le pouvoir judiciaire, sans garantie, annulé, était serre de la violence. On n'osa plus montrer le glaive. Ce n'était plus celui de la justice, l'œil ne l'aurait plus supporté. Une chose qu'il faut dire à tous, qu'il est trop facile d'établir, c'est que l'époque humaine et bienveillante de notre révolution a pour acteur le peuple même, le peuple entier, tout le monde. Et l'époque des violences, l'époque des actes sanguinaires où plus tard le danger la pousse, n'a pour acteur qu'un nombre d'hommes minime, infiniment petit. Voilà ce que j'ai trouvé, constaté et vérifié, soit par les témoignages écrits, soit par ceux que j'ai recueillis de la bouche des vieillards. Elle restera à la parole d'un homme du faubourg Saint-Antoine. Nous étions tous au 10 août et pas un au 2 septembre. Une autre chose que cette histoire mettra en grande lumière et qui est vraie de tout parti, c'est que le peuple value généralement beaucoup mieux que ses meneurs. Plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé que le meilleur était dessous, dans les profondeurs obscures. J'ai vu aussi que ces parleurs brillants, puissants, qui ont exprimé la pensée des masses, passent à tort pour les seuls acteurs. Ils ont reçu l'impulsion bien plus qu'ils ne l'ont donnée. L'acteur principal est le peuple. Pour le retrouver, celui-ci, le replacer dans son rôle, j'ai dû ramener à leur proportion les ambitieuses marionnettes dont il a tiré les fils, et dans lesquelles, jusqu'ici, on croyait voir, on cherchait le jeu secret de l'histoire. Ce spectacle, je dois l'avouer, m'a frappé moi-même d'étonnement. À mesure que je suis entrée profondément dans cette étude, j'ai vu que les chefs de parti, les héros de l'histoire convenue, n'ont ni prévu ni préparé, qui n'ont eu l'initiative d'aucune des grandes choses, d'aucune spécialement de celles qui furent l'œuvre unanime du peuple au début de la Révolution. Laissé à lui-même dans ses moments décisifs, par ses prétendus meneurs, il a trouvé ce qu'il fallait faire et l'a accompli. Grande et surprenante chose, mais le cœur qui les fit fut bien plus grand. Les actes ne sont rien auprès. Cette richesse de cœur fut telle alors que l'avenir, sans crainte de trouver le fond, peut y puiser à jamais. Tout homme qui en approchera s'en ira plus homme. Tout âme abattue, brisée, tout cœur d'homme ou de nation n'a, pour se relever, qu'à regarder là. C'est un miroir où chaque fois que l'humanité se voit, elle se retrouve héroïque, magnanime, désintéressée. Une pureté singulière qui craint l'or comme la boue est alors la gloire de tous. Je donne aujourd'hui l'époque unanime, l'époque sainte où la nation tout entière, sans distinction de parti, sans connaître encore, ou bien peu, les oppositions de classe, marcha sous un drapeau fraternel. Personne ne verra cette unité merveilleuse, un même cœur de 20 millions d'hommes sans en rendre grâce à Dieu. Ce sont les jours sacrés du monde, jours bien heureux pour l'histoire. Moi, j'ai eu ma récompense puisque je les ai racontés. Jamais, depuis ma pucelle d'Orléans, je n'avais eu un tel rayon d'en haut, une si lumineuse échappée du ciel. Et comme tout se mêle en la vie, pendant que j'avais tant de bonheur à renouveler la tradition de la France, les miennes se rompent pour toujours. J'ai perdu celui qui, si souvent, me conta la Révolution. Celui qui était pour moi l'image et le témoin vénérable du grand siècle, je veux dire du 18e. J'ai perdu mon père avec qui j'avais vécu toute ma vie, 48 années. Lorsque cela m'est arrivé, je regardais, j'étais ailleurs, je réalisais à la hâte cette œuvre si longtemps rêvée. J'étais au pied de la Bastille, je prenais la forteresse, j'arborais sur les tours l'immortel drapeau. Ce coup m'est venu, imprévu, comme une balle de la Bastille. Plusieurs de ces graves questions qui m'obligeaient de sonder si profondément ma foi, elles se sont débattues en moi dans la plus grave circonstance de la vie humaine, entre la mort et les funérailles, lorsque celui qui survivait, mort déjà pour une part, siégé, jugé entre deux mondes. Puis, j'ai repris mon chemin jusqu'au terme de cette œuvre, plein de mort et plein de vie, m'efforçant de tenir mon cœur au plus près de la justice, m'affermissant dans ma foi par mes pertes et mes espérances, me serrant, à mesure que mon foyer se brisait, au foyer de la patrie.